La Chine a une vision stratégique des relations internationales et elle déploie son activité sur cette base. Elle est partout présente, à la fois pour rechercher des ressources naturelles, en particulier le pétrole dont elle a besoin pour lubrifier son économie. Depuis 1993, elle est devenue importatrice nette de pétrole. Auparavant, elle en exportait. Ensuite, elle a besoin de minéraux, comme on en trouve beaucoup en Afrique, pour renforcer ce développement économique. Il lui faut aussi trouver des parts de marché. Or, le continent africain est un continent qui a besoin des produits manufacturés à prix faible que peut exporter la Chine. Sur un autre plan, la Chine a besoin d'affirmer sa présence en Afrique pour éviter ce qu'elle a connu au milieu des années 90, l'entrée en force de Taïwan, et également le besoin pour la Chine d'affirmer une vision multipolaire du monde qui va en brèche la vision unipolaire que les États-Unis ont cherché à mettre en place. La Chine fait cela pour ne plus être encerclée, comme cela a été le cas à la fois après son indépendance, sa libération en 1949 pour des considérations idéologiques, mais aussi depuis Tiananmen et depuis la fin de la guerre froide pour des considérations économiques. La Chine a besoin de s'assurer un espace vital et c'est pour cela que l'Afrique devient un élément important de sa stratégie internationale.
Peut-on dire que finalement la Chine réussit ou l'Afrique échoue ?
Absolument, vous avez raison. Entre la Chine et l'Afrique, il y a eu un découplage. Jusqu'au milieu des années 70, la Chine et l'Afrique étaient confrontées aux mêmes problèmes de sous-développement, avaient connu les mêmes guerres coloniales, avaient été colonisées, avaient connu également des régimes autoritaires qui avaient empêché leur développement. Quand la Chine est sortie de la révolution culturelle qui a duré de 1966 à 1976, elle a su prendre les mesures qui s'imposaient pour relancer son économie, d'où les politiques de modernisation industrielle, de défense, d'agriculture et de sciences engagées par Deng Xiaoping qui ont donné les résultats que l'on connaît aujourd'hui en termes d'attrait des investissements extérieurs et de modernisation de l'économie chinoise. Par opposition, l'Afrique, elle, a choisi non pas de s'attaquer à ces défis quand elle a connu ce tournant des années 70 avec les crises qu'elle connaissait, elle a choisi de chercher de nouveaux tuteurs, en l'occurrence c'était la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, parce qu'elle continue cette politique de l'autruche, tête baissée, ensevelie dans le sable, l'Afrique n'avance pas alors que la Chine, en dragon rugissant, avance et gagne des parts de marché à travers le monde entier.
La Chine, donc, avant le sommet, a insisté sur son engagement en faveur des économies africaines, balayant ainsi les critiques, y compris celles du président de la Banque mondiale, selon lesquelles elle participerait au réendettement des pays pauvres. On suppose quand même que la Chine ne fait pas tout cela par pure philanthropie.
Les États poursuivent leurs intérêts, la Chine également. Qu'on ne s'y trompe pas, et notamment nous, Africains, nous devons avoir un agenda dans notre relation avec la Chine. Ce n'est malheureusement pas le cas. Quant au risque du nouvel endettement des pays africains, je pense que les critiques du président de la Banque mondiale ne sont pas des critiques fondées en raison. Les pays africains ont besoin plus que jamais d'investissements pour faire face à leurs besoins en termes d'infrastructures et en termes d'éducation, de secteurs sociaux. S'ils ne règlent pas ces problèmes-là, ils vont retomber dans les conflits. L'Afrique a besoin d'avoir accès à de nouvelles sources de financement à des conditions qui sont avantageuses et qui s'accompagnent d'un savoir-faire et également d'une capacité de construction des infrastructures. De ce point de vue, l'Afrique et la Chine peuvent forger une relation stratégique à la condition que l'Afrique impose également ses vues dans ce dialogue.